Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le jour J, J comme dans jeudi, mais J comme dans Point de presse avec Christian Dubé. Je le sais, il n'y a pas de J dans Point de presse, ça me tentait juste de dire jour J. Je trouvais que ça faisait important parce que c'est important, ce Point de presse avec Christian Dubé. On va faire des précisions sur la vaccination, sur la campagne de vaccination, sur l'efficacité du vaccin. Évidemment, sur cette fameuse deuxième dose qui serait octroyée un petit peu en retard aux personnes auxquelles on a déjà administré la première dose. On a parlé plus tôt cette semaine de ce sujet-là avec un expert. Et vraiment, ça nous faisait nous questionner parce qu'on se dit, OK, d'un côté, est-ce que on est en train de repousser l'efficacité du vaccin? Donc, beaucoup de questions seront posées. On y va tout de suite.
Pour la diffusion des données. Nous allons sortir les données sur l'état de la COVID au Québec, les cas, les décès, les hospitalisations et les tests à 11 heures comme on le fait. Mais toutes les données sur la vaccination, donc les bonnes nouvelles, on va les donner, elles seront publiées à 13 heures. Je voudrais faire un peu le point sur la vaccination au Québec. Je vous annonce qu'une première dose a été donnée à 8339 personnes hier, ce qui porte maintenant le total à 115 000 personnes qui ont été vaccinées en ce moment. On a reçu 950 doses mardi, telles qu'il était prévu. 5850 de ces nouvelles doses-là hier, ce qui fait qu'à date, on a reçu 162 000 doses depuis le début de la vaccination. Faut se rappeler que on a toujours comme objectif d'être à 250 000 au mois de février, donc les livraisons se font très bien. Plus de la moitié maintenant des résidents de CHSLD ont reçu une première dose de vaccin, une autre bonne nouvelle. On a maintenant écoulé toutes nos premières doses. On vaccine à présent avec les nouvelles doses de Pfizer qu'on a reçues dans les derniers jours. Puis comme vous le voyez, depuis plusieurs jours, la vaccination se déroule rondement. Grand merci à l'équipe de vaccination de M. Paris. Cependant, ce n'est pas parce qu'on vaccine, puis ça je vais insister là-dessus, qu'on doit relâcher les bonnes habitudes de protection et de contrôle des infections que nous avons prises lors des derniers mois, parce que je le dis, je veux juste insister là-dessus, souvent dans nos CHSLD qui ont été vaccinés, on sent un certain relâchement, on se sent immunisé. Alors, je veux passer le message que la vaccination, c'est une mesure de plus, mais on doit demeurer extrêmement vigilant avec nos mesures sanitaires en place. C'est important de le répéter. Puis, comme aussi l'a mentionné la santé publique là, lors d'un briefing, un brefage un peu plus tôt, nos experts maintenant recommandent que la deuxième dose du vaccin soit administrée entre 42 et 90 jours. Et dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie car on doit composer avec très, très peu de vaccins, comme vous le savez. Et on est engagé dans une course contre la montre, puis M. Massé pourra répondre à des questions spécifiques là-dessus. Notre stratégie, est claire. On vise à vacciner le plus de personnes vulnérables pour sauver des vies et réduire la pression sur notre système de soins. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses, plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Bon, maintenant, vous savez, on vous a parlé beaucoup des RPA récemment. J'aimerais dire quelques mots sur les RPA. Nous avons résidence pour personnes âgées, là. Nous avons récemment dû prendre des décisions qui sont crève-cœur et mettre en place des mesures supplémentaires dans les RPA. Là, je fais juste penser, par exemple, aux cafétérias. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, je le dis, mais on a fait ça pour protéger les résidents. Il y a encore plusieurs éclosions dans ces milieux où il y a beaucoup de mobilité. Puis il fallait donc s'assurer d'éviter les rassemblements et les contacts pour éviter que cette transmission s'accentue. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la recommandation qui a été faite par la santé publique de reporter la deuxième dose jusqu'à 90 jours, ben ça va nous permettre de vacciner les résidents des RPA plus rapidement, parce qu'ils viennent après nos employés de la santé et les CHSLD. D'ailleurs, les établissements qui sont en train de planifier la vaccination dans les RPA devraient commencer le 25 janvier. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contents. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de téléphones. La vaccination dans les RPA va commencer le 25 janvier. Donc, je veux dire aux résidents des RPA, que la lumière est vraiment au bout du tunnel, on la voit. Là. On fait le plus vite possible pour vacciner les autres et pour que vous puissiez retrouver une vie la plus normale possible. Bon, maintenant, un bilan sur les cas, mais particulièrement sur les hospitalisations, qui est mon dernier point aujourd'hui. En terminant, j'aimerais dire que dans les derniers jours, on le voit, là, le nombre de cas semble se stabiliser aux alentours de 2100. Bon. Par contre, vous l'avez vu aussi, pour ceux qui suivent ça de proche, puis il y a de plus en plus de gens qui suivent ça de très proche, les hospitalisations sont toujours en hausse. Alors donc, oui, une amélioration du côté du nombre de cas, mais la situation, pour moi, là, elle est encore très inquiétante, particulièrement au niveau des hospitalisations. Donc, et c'est pour ça qu'on voit encore un très grand nombre de décès. Au risque de me répéter, et je vais être clair, les cas se répercutent sur les hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivent. On le comprend bien. Donc, le 1500 hospitalisations que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de la forte hausse de cas qu'on a eu dans les dernières semaines. Alors, ce matin, vous l'avez vu, et je le répète là, pour les gens qui nous écoutent, les projections de l'INES, là, l'Institut national d'excellence en santé publique, montrent aussi que la situation, elle est très fragile dans nos hôpitaux. On l'a expliqué, le couvre-feu était justement pour freiner la hausse des cas et baisser la pression sur notre réseau. Alors, rapidement, en conclusion, je résumerai. C'est vraiment pas le temps de relâcher nos efforts. Ça fait longtemps que je le dis, mais on le voit là qu'on a une bonne nouvelle du côté des cas, mais on n'est pas encore dans les bonnes nouvelles sur les hospitalisations et sur les décès. Je veux préciser que ceux qui ne respectent pas les règles nuisent à l'ensemble du Québec. C'est très clair, parce que des décisions qu'on prend aujourd'hui individuellement ont un impact collectif. Et si on ne réduit pas la contagion, le confinement risque de se prolonger et peut-être même de se durcir. Alors, au lieu de vous demander comment vous pouvez contourner les règles, demandez-vous donc plutôt comment vous pouvez vous y conformer. Il faut qu'on joue en équipe, il faut qu'on batte ce virus-là de vitesse, et si on joue en équipe, on va gagner la course contre la montre. Alors, I'll say a few words in English.
Bon, c'est clair que Christian Dubé a l'air un petit peu au bout du rouleau, là, d'habitude. Son ton est tellement plus posé, puis là, je veux pas faire de l'analyse à deux balles, mais il a vraiment l'air stressé, préoccupé par la situation. Et j'ai envie de dire, même si tu répètes 28 fois en point de presse, c'est clair, si le message que tu passes n'est pas clair, de dire c'est clair, ça le rend pas plus clair. Donc, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut pas s'asseoir sur nos lauriers, même si la campagne de vaccination est débutée. Il a fait un petit rappel, M. Dubé, 115 000 Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant et on a reçu 162 000 doses depuis le moment où le vaccin est devenu disponible en sol canadien. L'objectif, il a tenu à le rappeler, c'est de vacciner au moins 250 000 personnes au mois de février. Et si ça continue comme ça, il y a rien qui nous empêche de penser que ça se fera pas parce que les livraisons vont bon train. La campagne de vaccination se déroule rondement. Rappelez aussi que la moitié des résidents des CHSLD ont reçu le vaccin. Ça, c'était les bonnes nouvelles. C'était les fleurs. Ensuite, c'était un petit peu le pot. De dire, et je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, que le vaccin, c'est pas une panacée. C'est-à-dire qu'il faut pas se relâcher. Et vraiment, c'est ce qu'on entend un petit peu partout. Là, les gens qui ont reçu la première dose de ce vaccin-là semblent le laisser tomber ou peut-être être moins zélés par rapport aux règles sanitaires. Et c'est vraiment pas parce qu'on vaccine, a tenu à dire M. Dubé, qu'il faut se relâcher. Parce que dans les CHSLD, c'est dommage de le dire, ce qu'on entend, les échos qu'on a du milieu, c'est qu'on sent un certain relâchement. Et par rapport à l'administration des doses, vous vous rappelez, on a discuté avec Benoît Massé un peu plus tôt cette semaine, ça inquiétait bien des gens de savoir, OK, si on repousse l'administration de cette deuxième dose, est-ce que ça va amoindrir l'effet de la première dose? Est-ce que c'est pas un peu des coups d'épée dans l'eau? C'est fait rassurant quand même, Monsieur Massé, à cet effet-là, il dit, écoutez, là, on baisse d'une marge d'erreur d'environ 3% là, l'immunité, donc c'est pas une terre en bois de boute non plus. Ce qu'on veut en ce moment, c'est sauver des vies. M. Dubé l'a bien dit, on a un devoir moral de sauver des vies et on est obligé de prendre des décisions aussi pour calmer la situation dans nos hôpitaux. Parce que même si les cas sont en baisse depuis quelques jours, aujourd'hui quand même on est à 2132 cas, 7 hospitalisations, mais 64 décès. Et ces décès-là, ils sont directement liés au fait qu'il y a des personnes hospitalisées, qu'il y a des personnes aux soins intensifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à livrer la bataille parce que même si on a moins de cas, ça demeure vraiment inquiétant. Il a glissé un petit mot sur les RPA aussi, M. Dubé. RPA qui sont ces résidences privées pour les aînés parce que c'est difficile pour les résidents qui sont en RPA. On leur a coupé à peu près tout moyen d'avoir des interactions sociales parce qu'ils ne sont toujours pas vaccinés. Là, je vous rappelle qu'ils venaient après les travailleurs de la santé, après les personnes en CHSLD aussi. Message pour ces personnes-là de la part de M. Dubé, faut pas lâcher hein, parce que le vaccin s'en vient. On va les vacciner plus rapidement, justement grâce à l'espacement des doses. On s'en va aux questions.
Hybride. Il y a quelques journalistes qui sont dans la salle et nous avons des journalistes aussi via Zoom. Alors, pour les gens en Zoom, je vous rappellerai que c'est un média, un représentant par média et aussi de lever votre main là via l'application pour que je puisse adresser la parole. Pour la première question, nous allons y aller avec Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles.
Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est capable de quantifier qu'est-ce que ça va donner ce report-là de la deuxième dose? Vous parlez, M. le ministre, des RPA qui seront vaccinés plus rapidement. Est-ce qu'on sait si ça représente combien de personnes vulnérables plus vaccinées plus rapidement?
Oui, mais en fait, on peut garder ça simple parce que j'ai pas mon tableau avec moi, là, mais de la présentation que vous avez eue ce matin, rappelez-vous qu'on avait déjà prévu au début mars les deuxièmes doses là pour le personnel des CHSLD et le personnel de la santé d'à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est un déplacement qu'on fait qui nous permet de vacciner un plus grand nombre de personnes, mais peut-être plus techniquement, là, je pourrais demander. Mais le principe, là, c'est d'en vacciner le plus rapidement possible, surtout de la clientèle vulnérable. Mais peut-être que M. Massé peut donner.
En fait, ça va nous permettre de rejoindre non seulement les gens à RPA qui vont commencer d'être vaccinés très bientôt, mais aussi les gens qui ont 80 années et plus, les gens qui ont 70 ans et plus. Des gens qui sont vraiment à haut risque. Évidemment, il y a moins de complications, un peu, mais quand même beaucoup de complications. Et on a calculé que ça nous permettrait de devancer, peut-être pas de 42 jours de plus, mais de devancer pour près d'un demi-million de personnes, près de 500 000 personnes, on va pouvoir devancer la vaccination. Donc, l'impact de cette chose-là, c'est un impact très important. De gagner quelques semaines, c'est gagner beaucoup de cas, beaucoup de transmissions, d'hospitalisations, de décès. Donc, c'est un gain important du point de vue de la protection de la population.
Et en sous-question? Parlant d'impact, justement, M. le ministre, vous avez ouvert la porte tantôt à des mesures plus draconiennes au niveau du couvre-feu ou des restrictions qui pourraient être imposées. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour que le couvre-feu soit levé le 8 février?
Ben, écoutez, je vous dis, vous savez qu'on a toujours dit que c'était un ensemble de facteurs qui nous aidaient à prendre nos décisions depuis le début. Prenons comme, je dirais, une demi-bonne nouvelle qu'il y a eu une baisse des cas. On va dire ça comme ça parce que je veux qu'on reste sur nos gardes, là, parce que on le dit, le nombre de cas, c'est une chose. Mais les hospitalisations, vous avez entendu Dr. O'Patterney cette semaine, c'est pas jojo ce qui se passe en ce moment là, dans tous nos grands hôpitaux à Montréal. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour être satisfait. Je pense qu'on peut être content d'une direction qu'on semble avoir en ce moment. Mais je vous dirais là, que tout ce que je voudrais, c'est que les Québécois réalisent que prenons... Continuons à faire les efforts qu'on tentait de faire. Ça semble fonctionner, mais il est trop tôt. Il est trop tôt pour dire qu'on réussit. Là.
Et maintenant, au micro 2, je rappelle que c'est question sous question aux médias. Si vous voulez spécifier votre nom et votre média, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur Éric Plouffe de Radio-Canada. J'aimerais vous entendre à propos des discussions que vous avez dû avoir avec les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement fédéral sur ce délai qui peut aller jusqu'à 90 jours parce que le fédéral n'était pas d'accord, là, était plutôt en faveur d'un délai de 42 jours maximum. Et puis, certains vont se demander si ça risque pas de compromettre peut-être l'acheminement de doses supplémentaires éventuellement si on ne respecte pas les recommandations des compagnies pharmaceutiques.
Ben écoutez, vous avez entendu le premier ministre cette semaine quand on en a parlé une première fois que dit jamais on remettrait cette discussion-là avec le fabricant. Mais je vous dirais la bonne nouvelle, puis après de longues discussions là, qui ont été menées par Dr. Arruda avec les différentes instances fédérales, puis je pourrais demander à M. Massé de compléter, mais je vous dirais jusqu'à dans les dernières heures, la recommandation non seulement des instances fédérales tient compte notamment des particularités des provinces par rapport à leur propre situation. Puis ça, je pense que c'est un point que le Dr. Arruda a réussi à bien expliquer à ses collègues des autres provinces et du fédéral, que c'est beau avoir certaines limites, mais au Québec, on n'a pas la même situation qu'ils ont au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Donc, ce troisième élément-là a aidé dans les réflexions qu'il y a eu. Ça, c'est mon premier point. Puis, le deuxième point, je pense qu'il est encore tout aussi important, c'est que on le dit, puis il y a eu des... D'ailleurs, on est très proche de Pfizer. Il y a eu des discussions encore ce matin dans l'équipe de santé publique. Il faut leur expliquer aussi aux fabricants notre particularité. Donc, on le fait avec le fédéral, on le fait avec les différentes instances, mais il y a beaucoup de proximité entre la santé publique du Québec et le fabricant pour être capable d'expliquer aussi notre position. Alors, mais je vous dirais, avant de passer la parole à Richard, il y a une chose qui est sûre, on n'a jamais remis en question le fait qu'on veut donner une deuxième dose. C'était juste de savoir qu'on allait d'aller en donner une, ça c'était évident pour nous, mais c'était de dire quelle marge de manœuvre que vous nous donnez pour qu'on puisse vacciner vraiment notre clientèle vulnérable. Puis là-dessus, là, s'il y a d'autres précisions, je laisserai.
On va revenir sur tout ça un peu plus tard après l'intervention avec Nicole Gibault, avec Nathalie Granvaux, là, que vous connaissez, la directrice du laboratoire de recherche sur la réponse de l'autre aux infections virales, parce que ça, c'est compliqué tout ça. Et j'ai envie de dire, le gouvernement a un petit peu un problème de message avec la vaccination, là. Un bon exemple de ça, c'est par rapport à la transmission de la COVID versus le processus de vaccination. On sait, là, que la première personne qui a reçu le vaccin au Canada, cette dame qui a quelque chose comme presque 90 ans, là, a contracté la COVID-19 dans les derniers jours. Elle a des complications liées à cette maladie-là. Je pense qu'on était peut-être une gang à pas comprendre tout à fait avec exactitude que le vaccin de la COVID-19, c'était pas quelque chose qui nous empêchait de l'attraper. Hein. On se fait donner le vaccin de la COVID, puis tout à coup, t'es pas immunisé, puis t'es pas exempt de la poignée. Là. Ce que ça fait, ce vaccin-là, c'est vraiment de nous empêcher de développer des complications graves. Donc, beaucoup de personnes, hein, pensent que ça nous procure une certaine immunité, ben ça déclenche une réponse immunitaire, là, vous allez me dire, mais c'est-à-dire on peut l'attraper quand même, et si le message passe pas, mais c'est peut-être parce qu'il y a un problème avec la façon dont le message est passé. Un peu plus tard dans l'émission aussi, on va revenir avec Martine Delvaux, qui collabore avec nous sur la campagne du gouvernement dont j'ai parlé tantôt avec Benoît Dutrisac un peu plus tôt. Foule célèbre une campagne pour mettre les gens, les ados en particulier, en garde contre le sexting. Campagne qui fait beaucoup jaser, une campagne qui, à mon sens, passe un petit peu à côté du message, est à côté de la plaque, envoie aussi un drôle de signal. Je vous en dis pas plus parce que ça circule pas mal et ça fait beaucoup jaser. On va décortiquer tout ça tantôt avec Martine. Et Guillaume Lavoie, bien entendu, sera là un peu plus tard pour nous parler de la situation avec Donald Trump, qui est mis en accusation deux fois là, dans son processus de destitution. Et on va se poser la question par rapport aux accointances des démocrates avec les stars, avec les personnalités. Là, on le sait, Lady Gaga et Jennifer Lopez vont chanter lors de l'investiture de Joe Biden. Ça, c'est une tradition. Okay? Même du côté des républicains, on a l'habitude d'engager des vedettes hein, le soir de l'investiture. Mais quand même, le Parti démocrate a une espèce de tendance à se tenir proche des people, comme disent les Français. On se rappelle du règne de Barack Obama. Il était très proche de Jay-Z, très proche de Beyoncé, sa femme aussi, Michelle Obama. On voyait souvent des photos circuler sur les médias sociaux. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer contre toi dans une certaine mesure. On explorera ça avec Guillaume, mais on va se dire un petit mot aussi sur les universités. L'Université du Québec à Montréal, qui est dans l'eau chaude par rapport au couvre-feu, distribuer des laissez-passer un peu à la va-vite à des profs pour, en tout cas, ce qui apparaît, s'éviter des complications administratives. Quand on sait que l'école est en ligne, que les profs n'ont pas à se déplacer, il y a beaucoup de profs qui, en recevant cette lettre-là, qui les autorisaient à se déplacer après le couvre-feu, ont dit « Wow, t'as peu, là. J'ai pas besoin de ça. Moi, cette lettre-là, ça n'a aucun sens. » Donc, c'est une décision peut-être un peu malheureuse de la part de l'UQAM. On aura quelqu'un de l'université tantôt avec nous pour essayer de nous expliquer pourquoi ils sont allés de ce côté-là, pourquoi ils ont pris cette décision-là. Ils ont distribué quand même... 1000, plus que 1000 laissés passer, c'est quand même pas rien.